Bonjour. Ça, c'est Starlight, un nouveau yaourt allégé qui n'a strictement aucun intérêt.
CO2, mon ami.
Alors, vous allez me dire,
pourquoi est-ce qu'on cherche à vous le vendre?
Mais parce qu'on a des objectifs. On a des chiffres à faire, nous. Qu'est-ce que vous croyez?
Quand on parle de croissance, on parle de croissance d'une grandeur technique qui s'appelle le PIB, le produit intérieur brut.
Tiens, notre PDG, par exemple, avec son salaire qui avoisine grosso modo le PIB du Burkina Faso.
Avec quoi on paye? Parce qu'on trouve le pognon.
Denis Chessou.
En réalité, le problème arrive avec la sacralisation de cet indicateur, lorsqu'on l'assimile à un indicateur de progrès, ce qu'il ne peut pas être.
Les investisseurs, comment on fait? Comment on fait?
Sur France Inter.
Apprendre à vivre autrement.
Alors vous allez me dire, évidemment, CO2 mon amour, c'est la nature qui chuchote à vos oreilles, mais je vous l'ai dit, on va glisser un petit peu de PIB avec Éloi Laurent, notre économiste aujourd'hui. Juliette Delpirou nous accompagne à la technique et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Bon, avec une petite humeur, bien sûr, parce que si vous n'avez pas la nuque à semer, tel le bœuf antique du sacrifice par le tombereau des joyeuses nouvelles du monde qui se déversent chaque matin... Si vous n'êtes pas étouffé dans votre masque de canard par le virus couronné aux yeux bridés, si dans votre potager vous n'espérez plus faire pousser de belles tomates, des poivrons avant qu'ils ne soient déformés par un nouveau virus mystérieux, bah ouais, c'est comme ça, ça vient de sortir. Il nous reste quand même plein de choses. Il reste l'amour, l'envie d'agir, la créativité, et puis le regard. Eh oui, parce que l'auditeur naturaliste de CO2 Mon Amour que vous êtes a très souvent la truffe au ras du sol. Alors il reste à chercher parmi les herbes folles, vous savez, les petites traces de vie, les premiers dards du Père-Neige ou la jonquille annonciatrice d'un rayon de printemps. Mais, disons-le, on n'est pas très fiers jusqu'à présent de cet hiver. Eh oui, un hiver nonchalant qui se prélasse sans dire son nom et malheureusement qui ne fait pas encore le boulot nécessaire de grand froid. Espèce en voie de disparition, le froid, comme le titre l'excellente revue La Salamandre, parce qu'au froid, quand même, on lui doit la diversité des saisons, la dormance indispensable des graines, des bourgeons, des animaux. Et là, vous pouvez toujours chercher sur Internet, hein, un vrai hiver avec du froid, vous ne le trouverez pas. En ce moment, d'ailleurs, on se demande ce qui se trame, hein, si d'un matin éclatant au souffle du printemps, de cette terre exténuée va jaillir encore un bourdon dans sa barboteuse de poils blancs, un cirf en pyjama de soie jaune, une osmie solitaire, un fourmilion, une chrysope, une cétoine de bronze, bref, un de ces êtres fragiles et insignifiants en apparence, qui rend la terre plus heureuse. Et en regardant la terre, on peut se demander si la pluie nocturne verra une belle salamandre serpenter sur l'asphalte et la fauvette grisette chanter son retour d'Afrique au plus chaud du jour. Et du haut de son tracteur, le bras du géant broyeur, en nettoyant le talus, a-t-il pris soin de l'éclosion des petites chenilles noires dans les orties? Bah, sait-il même qu'elles existent? C'est toute une population, vous savez, de petites tortues qui n'ouvrira plus ses ailes au soleil pour aller butiner la prairie. Ah, les petites tortues qui volent, bah allons donc, monsieur Chessou, quoi. Qu'est-ce que vous fumez comme herbe étrange? Mais non, je me trompe pas. Les petites tortues volent comme les belles dames et les vulcains, puisqu'il s'agit de papillons, parmi les plus jolis d'Europe. Mais encore faut-il avoir le temps de regarder, de poser la joue dans l'herbe à hauteur de lombric, de musaraigne et de coccinelle. Peut-être d'ouvrir 2-3 bouquins et de rencontrer des semi-fadas éblouis qui arpentent les sentiers qui vont vous raconter tout ça. Avoir aussi gardé de son enfance assez de curiosité pour explorer avec sa loupe son jardin, son parc ou dans les rues la mousse des murailles. Alors évidemment, il faudra un peu chasser sa tablette, ce monde en 5G, 3 mouvements et ses 2 fils dans les oreilles. Nos relations avec le vivant sont en crise. Laissez venir l'inattendu, le livre de la vie minuscule ou grandiose vous attend. Essayez, ça fait du bien. Et au menu, donc, il y aura quand même une bouffée, un petit bol de nature. Je vais vous emmener dans une mangrove. Ce sera en Guadeloupe. Et puis donc, l'économiste Éloi Laurent qui nous dira tout le bien qu'il pense donc de ce fameux PIB avec son ouvrage « Sortir de la croissance ».
Aux sources de la loupe, je ne sais quoi, j'attendais sans doute le début du monde. Troubadour rêvassait. Je ne sais quelle mélodie selon. Comme se levait l'aurore sur la bas des écrins, dans sa robe de safran. Je t'en donne ma main au ciel encore étoilé. J'entends oh, vous m'attendais. Cher vous, amour, je suis venu pour toi. Jurant par Périclès dans le fond du jardin, en demandant l'addition. Chaque soir aux pyramides, quand chantonne Francky, je t'attends. Rêvant vers les marmottes, comme il est interdit, quelque part à Saint-Tropez. Nu au bain de minuit, sortant de la flotte qui m'a dit. Oh, vous, si je m'attendais. Cher vous, amour, je suis venu pour toi.
Entièrement fabriqué à la main depuis son Auvergne, c'était Jean-Louis Murat, Si je m'attendais.
On n'est pas compétitif, hein.
CO2, mon amour.
Non, 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 la vie n'est pas une course, hein. Tout mon temps.
Denis Chessou.
C'est pas une course, la vie. On laisse ça pour le Tour de France.
Sur France Inter.
Ouais, bah oui, 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 ça va être un petit peu le thème aussi. Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Alors Éloi Laurent, donc vous êtes un économiste à l'OFCE, vous êtes professeur à l'école de management et de l'innovation de Sciences Po, professeur aussi invité à Stanford, excusez du peu. On va revenir sur deux ouvrages, entre autres Sortir de la croissance, mais si je dis que vous êtes un homme qui ne murmure pas à l'oreille du PIB, est-ce que ça vous va?
Ça me va très bien. Et à l'oreille duquel le PIB ne murmure pas. C'est-à-dire qu'en effet, ça ne me parle pas, ça ne me parle plus. Je dois bien dire que j'ai été un économiste conventionnel, quand j'ai fait ma thèse, quand j'ai fait mes études, et puis j'ai découvert autre chose. Autre chose qui est que l'économie est encastrée dans la biosphère et qu'en fait, l'économie sans l'environnement, ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, c'est à la fois une trajectoire personnelle et puis effectivement qui correspond à un mouvement du monde, qui est qu'on comprend que effectivement, l'économie de l'environnement, c'est une discipline, mais en fait, l'économie sans l'environnement, ça n'a rigoureusement plus aucun sens au début du 21e siècle.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'avoir quand même ce petit bol de nature dont on a besoin dans ces hauts de mon amour. Et là, je vais vous emmener donc assez loin. Ah ouais, on a été obligé de prendre l'avion là. Ah bah oui, c'est comme ça, parce qu'on va se retrouver en Guadeloupe, dans un milieu tout à fait typique des littoraux tropicaux. Donc c'est la mangrove. Donc une zone humide avec des palétuviers. Découvrons comment ça marche avec Jocelyn Trace, qui est garde du parc national de Guadeloupe, et Gérard Berry, qui est ancien garde du conservatoire du littoral.
La mangrove, justement, alors attention, la mangrove, c'est quand même les pieds dans l'eau salée. Hein. Oui.
Et c'est un milieu un peu hostile, a priori. Hein. On peut se dire qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup de vie, pourtant il y en a.
A priori hostile, oui. Toutes les caractéristiques sont réunies pour que la vie soit très difficile, voire impossible, pour un végétal. Et donc, il a fallu s'adapter. Il faut quand même savoir qu'au départ, la mangrove prend naissance grâce à des caractéristiques géologiques et morphologiques. Particulière, déjà par rapport à la sédimentation, au basculement d'une île plus ou moins plate qui génère ce que nous appelons d'ailleurs des cul-de-sac avec une mer qui est peu profonde, une eau qui est plutôt calme, une température assez régulière. Toutes ces conditions-là doivent être réunies pour créer un milieu propice au développement des palétuviers, donc, puisque la mangrove, c'est les palétuviers. Ouais. En Guadeloupe, il y en a quatre, et qui se sont installés là et qui ont dû développer une stratégie extraordinaire pour pouvoir survivre dans un milieu aussi difficile.
On dirait des échasses, là, pour qu'ils essayent de se maintenir dans l'eau.
Oui, alors celui qui vient le premier à l'esprit, c'est celui qu'on voit le plus souvent aussi, directement dans la mer d'ailleurs, ouais. Si bien qu'on appelle parfois mangrove maritime, c'est le palétuvier rouge, le Rhizophora mangle, et qui, pour se stabiliser, est obligé de développer des échasses sous forme de racines aériennes. Et donc, il doit se stabiliser en s'élinguant, en s'arc-boutant, grâce à des racines qui se développent en surface. Et même à partir des branches, donc il y a des racines qui tombent du ciel, on pourrait dire, pour venir se stabiliser.
Thank you.
Gérard, là on voit des petites pointes, on dirait des fléchettes. Là. Qu'est-ce que c'est?
Le mangle rouge. Pour se développer, a dû, il est, c'est ce qu'on appelle vivipare. Ah. Il est vivipare, ça veut dire que le fruit qu'il va lâcher à maturité, eh bien, ce n'est pas un fruit, c'est déjà une plantule. Et qui a pris d'ailleurs une forme de poignard, hein, je peux dire, puisque c'est un fruit tout long, comme une racine, et qui est pointu.
Et donc quand ça tombe, après, ça se replante, quoi. C'est ça.
Quand il tombe de la branche, oui, il se fixe comme un poignard. D'accord. Dans la vase, dans le sable.
Et les racines font leur boulot.
À la pointe, justement, le système racinaire se développe. Et il va s'accrocher au sol, qui est meuble, hein, n'oublions pas. À l'autre extrémité, eh bien, ce sont les feuilles qui vont se développer et pour donner naissance vraiment à un petit arbre.
Et alors, ça grouille de vie, tout ça, ça protège aussi d'autres formes de vie.
Alors, ça grouille de vie, d'ailleurs, souvent, on a toujours présenté la mangrove comme une nurserie, hein, un endroit où passent un certain nombre d'espèces à un moment quelconque de leur vie, soit les adultes pour la reproduction, soit des jeunes pour grandir un peu, soit des bébés qui prennent naissance.
Qu'est-ce que c'est des insectes? C'est quoi? C'est des poissons?
Ah ben, ce sont des poissons, des crabes, des crustacés, il y a un peu de tout. Alors bien sûr, dans les branches des arbres, il y a des oiseaux, mais dans l'eau, il y a des poissons, il y a des crabes, il y a aussi des éponges.
Ah ben là, on voit des trous, là, absolument incroyables. Ah ben c'est ça, effectivement, on en a un ou deux là qui sortent. Ce sont des petits crabes.
Voilà, il y a plusieurs espèces de crabes. Le crabe sémaphore, par exemple, qu'on appelle ainsi, ou encore crabe violoniste, parce qu'il a une grosse pince qui rabat sur sa carapace régulièrement, il s'écarte, il ramène comme un violoniste ou comme quelqu'un qui dit « c'est ma faute ».
Gérard, au moment où nous enregistrons, là, on voit le soleil qui se couche. Et ça veut dire qu'il va se coucher très très vite. Parce qu'ici, on est quand même en milieu tropical. Et en 10 minutes, l'affaire va être pliée. Quoi, 10 minutes, un quart d'heure.
Mais oui, nous sommes en Guadeloupe. Nous sommes dans un pays tropical. La nuit tombe très très vite parce que le soleil, là, tant qu'il est là, il brille très fort. Donc on a l'impression d'être encore en plein jour. Mais une fois qu'il aura franchi la ligne d'horizon, il disparaît d'un coup d'un seul. Et on se retrouve en pleine nuit. C'est pourquoi d'ailleurs, nous invitons les gens qui aiment se balader dans la nature, à ne pas traîner trop le soir. Et dès que le soleil commence à décliner, il faut savoir où est la voiture ou bien où est la maison pour ne pas être surpris en pleine forêt par la nuit.
Voilà, on salue donc nos amis des Caraïbes qui nous écoutent avec évidemment 6 heures de décalage. Donc avec ces mangroves qui sont quand même des digues naturelles, qui sont des zones humides et qui permettent quand même de casser la houle, qui sont évidemment de formidables remparts aussi écologiques pour la Terre. Et vous souhaitiez, vous et Laurent, réagir? Est-ce que vous connaissez un peu ce milieu, quoi?
Je connais un petit peu. Les mangroves, c'est en fait trois choses extraordinaires. D'un côté, ce sont des protectrices de biodiversité, en effet des pouponnières pour énormément d'espèces. Ce sont des puits de carbone, c'est-à-dire que ça permet aussi de jouer un rôle dans l'atténuation du changement climatique. Et ce sont des protections naturelles. Et on a des études très précises sur le tsunami de 2005 en Asie, où on a des zones dans lesquelles il y avait des mangroves qui étaient encore là, qui n'avaient pas été détruites pour faire des fermes à crevettes et qui ont protégé les humains concrètement, c'est-à-dire qui permettent de diminuer l'impact des vagues de 70 à 90% et des zones entières qui ont été littéralement protégées par les végétaux, des humains qui ont été protégés par la nature et de l'autre côté, des humains qui ont détruit cette nature en faisant des fermes à crevettes, c'est-à-dire en plus pour une surexploitation de cette ressource naturelle et qui en ont payé le prix de leur vie.
Voilà. Et on parle maintenant de solutions fondées sur la nature, évidemment en plaçant toujours plus ou moins l'homme au centre, ce qui est évidemment une erreur, puisqu'on appartient tous au vivant. Mais alors justement, comment sortir de cette croissance? Ça, c'est le titre de votre ouvrage, donc Éloi Laurent, aux éditions des Liens qui libèrent. Je parlais de l'homme qui ne murmurait pas à l'oreille du PIB, alors vous n'êtes pas très très nombreux. C'est vrai que c'est compliqué lorsqu'on est économiste et qu'on a été formé à une économie, on va dire, conventionnelle, de changer de mantra, quoi. Voilà.
C'est très compliqué. En économie, on a un problème de stock plus que de flux, pour utiliser un langage d'économiste, c'est-à-dire que le flux est bon au sens où il y a beaucoup de jeunes qui rentrent aujourd'hui, qui font de l'économie et qui comprennent tout de suite que tout ce qu'on raconte de l'économie néoclassique parfaitement concurrentielle, etc., ça va leur permettre à peu près de rien comprendre du monde tel qu'il est. Et ils comprennent même plus tellement de faire des carrières intéressantes. Donc d'emblée, ils veulent être aérés intellectuellement et comprendre quelque chose au monde dans lequel ils sont. Et donc ils comprennent qu'il faut se départir de cette économie qu'on a pratiquée au XXe siècle. Le problème, c'est qu'il y a un stock. C'est-à-dire qu'il y a un stock de gens qui, à la fois parfois sont des économistes professionnels et qui occupent des positions de pouvoir, et puis des gens qui ont été formés par ces économistes pendant des décennies et des décennies, et du coup qui n'arrivent plus en fait à évoluer intellectuellement, et donc qui répètent, qui annonnent l'économie du XXe siècle sans jamais passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire en fait qui nous maintiennent prisonniers du XXe siècle.
Alors ça fait donc une quarantaine d'années déjà que l'on parle de cet indicateur qui est quand même l'art de compter ce que l'on gagne mais jamais forcément ce que l'on doit, donc avec ce fameux PIB, donc l'accumulation des biens, on va dire, et des services pour faire simple, et c'est toujours la référence. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce que ça nous cache en fait, le PIB?
Ça nous cache à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à comprendre dans notre monde, mais en fait la critique de la croissance, elle est très ancienne. Elle est faite au milieu du 19e siècle par quelqu'un comme John Stuart Mill, économiste libéral anglais, qui dit au fond qu'il y a des passages tout à fait clairs sur l'état stationnaire, et qui dit, alors même que la révolution industrielle est partout autour de lui, qui dit il est évident que la croissance n'est pas la fin de l'activité humaine, et qui parle déjà de la connexion entre justice sociale et préservation de la biosphère. Donc ça, c'était l'âge philosophique de la critique de la croissance. Dans les années 70, il y a déjà un âge empirique de la critique de la croissance. Les économistes qui commencent, il y a 50 ans, à construire des indicateurs alternatifs de bien-être et de soutenabilité environnementale, en disant on peut construire littéralement des indicateurs alternatifs au PIB qui peuvent être robustes et qui peuvent informer les politiques publiques. Donc cet âge empirique de la critique de la croissance, il est également derrière nous depuis un demi-siècle. Là, nous sommes entrés dans le troisième âge de la critique de la croissance, qui est l'âge politique. C'est-à-dire il s'agit maintenant de changer les politiques. Plus seulement de changer les indicateurs ou de critiquer philosophiquement la croissance, mais véritablement de changer la façon dont on prend des décisions économiques. Et l'originalité de ce livre, s'il en a une, c'est de faire 50 pages de propositions en expliquant comment on doit changer le processus de décision économique au niveau mondial, européen, national, dans les villes, dans les territoires, dans les entreprises. Et de prendre chaque niveau de gouvernement et de dire à chaque niveau de gouvernement, il y a une décision fondamentale qui est prise une fois, deux fois par an, qui est l'allocation des dépenses par rapport à un certain nombre de ressources dont on bénéficie. Cette décision-là doit être prise au 21e siècle selon des indicateurs de bien-être. C'est vrai pour une ville comme Paris, c'est vrai pour un pays comme la France, c'est vrai pour l'Union européenne, c'est vrai pour les Nations unies. À chaque fois qu'on prend une décision d'allocation de ressources, on doit le faire selon des indicateurs de bien-être et plus selon les indicateurs du XXe siècle qui sont la compétitivité, l'attractivité des villes, la croissance, le profit, les cours de bourse, la finance, etc. Voilà, tout ça, c'est le XXe siècle.
Alors comment on arrive à décoloniser tout ça? Est-ce qu'on fait lire Aristote à ces gens-là? Parce qu'on aurait pu le convier. Bon, il n'est pas disponible. Enfin, il y a un peu de ça, il y a un peu de...
Alors Aristote est toujours disponible. C'est le grand avantage d'Aristote, c'est qu'il est toujours avec nous en fait. Ouais. Et en effet, Aristote, il y a 2 millénaires et demi, donc ça commence à remonter, écrit l'Éthica Nicomaque pour son fils. Et le premier chapitre de l'Éthica Nicomaque, c'est un chapitre sur qu'est-ce qu'une vie réussie. C'est une vie heureuse. Donc à l'évidence, ça n'est pas l'augmentation du revenu par habitant qui préoccupe Aristote. C'est la question du bonheur et les définitions possibles et éventuellement conflictuelles du bonheur. Donc non, Aristote est avec nous, mais Aristote, c'est aussi le père de l'économie. Oikos nomos, la loi maison. D'allocation des ressources dans un foyer. Donc Aristote nous dit d'un côté l'économie c'est un moyen et la finalité de l'économie c'est le bonheur. Donc en fait on a la réponse déjà, mais comme pour beaucoup de choses il y a déjà bien longtemps. Donc la question en effet, pourquoi est-ce que ça n'évolue pas plus vite? Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps? Comme toutes les transitions qui ne se font pas ou qui se font, il y a trois réponses, les idées, les institutions et les intérêts. Donc il faut mener le combat sur ces trois terrains-là. Il faut gagner le combat des idées, il faut prouver que le PIB et la croissance sont des indicateurs dépassés qui nous permettent pas de comprendre notre monde. Il y a les institutions, il faut aller porter le fer au Parlement européen, au Parlement français pour changer la façon dont on vote le budget. Et puis il y a la question des intérêts, c'est-à-dire des lobbies qui ont tout intérêt à nous maintenir dans le XXe siècle. Il faut aussi les combattre. Voilà.
Alors justement, quelles sont les preuves que l'on doit apporter lorsque l'on est face donc à des gens qui sont mordus sur la croissance? D'abord, est-ce que le capitalisme pourrait s'en sortir s'il n'y avait pas de croissance?
Si on prend un pays comme le Japon, qui est un exemple intéressant...
Ils n'ont pas de croissance.
Ils ont plus de croissance. Ouais, c'est-à-dire qu'ils en ont eu pendant 30 ans des taux de croissance très importants, 6-7% par an. Aujourd'hui, depuis 30 ans, ils sont à 1% de croissance par an. Donc il n'y a quasiment plus de croissance. Le capitalisme continue à très bien se porter. Personne ne définirait le Japon comme un pays qui n'est pas capitaliste. La Chine, pour moi, n'est pas un pays capitaliste. Et de moins en moins un pays capitaliste. Et on le voit avec ce qui se passe autour de ce que vous appelez le virus couronné. c'est un pays qui est capable de mettre en quarantaine l'équivalent de la France. Donc c'est un pays qui est un tout petit peu autoritaire, on va dire.
Un tout petit peu.
Oui. Dans lequel l'idée de la liberté économique, les marchés libres, etc., tout ça est quand même très conditionnel à un parti unique qui est lui-même dirigé par quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Mao Tse-tung. On dirait Xi Jinping, c'est Mao Tse-tung plus la reconnaissance faciale, si vous voulez. Donc voilà, donc c'est ça, c'est quand même assez terrifiant et on est assez loin de l'idée d'un monde de licence économique. Donc il y a plein de contre-exemples. À l'inverse, les pays nordiques sont des pays capitalistes et pourtant ce sont des pays qui aujourd'hui sont le plus proche de ce qu'on voudrait en termes d'équilibre entre le dynamisme économique, la justice sociale et les équilibres écosystémiques.
Et un certain rapport avec la nature, c'est ça.
Voilà, exactement. Donc si vous voulez, c'est une question piégée d'abord parce qu'en fait le capitalisme ça n'existe pas, comme on le sait. Il y a des capitalismes qui sont changeants depuis le 16e siècle, voire le 13e siècle, constamment. Alors, est-ce que le capitalisme actuel, qui est le capitalisme hyper financiarisé et numérique,
c'est néolibéralisme,
voilà, le capitalisme néolibéral auquel nous avons à faire face, est-ce que ça, c'est un problème à la fois pour la biosphère et pour la justice sociale? La réponse est oui. Absolument oui, et de manière inconditionnelle, oui. Le capitalisme néolibéral est en train à la fois de détruire la biosphère et de détruire la coopération sociale et les équilibres sociaux. Et ça, il faut absolument le réguler. Le gros problème du capitalisme néolibéral, on en a un exemple absolument criant sous les yeux avec le gouvernement français actuel, c'est que c'est un système dans lequel l'État se met au service du marché. Le capitalisme entendu comme une économie de marché régulée, typiquement, c'est quoi le capitalisme? Karl Polanyi nous dit, le capitalisme, c'est un système dans lequel trois choses deviennent des marchandises, la monnaie, le travail et la nature. Mmh. D'accord? Par exemple, le fait que le travail soit une marchandise au début du XXe siècle, petit à petit est corrigé par le fait qu'on invente l'État-providence, qui vient contrebalancer de façon très importante cette marchandisation du travail, d'accord, pour lui redonner une forme d'autonomie. Bon, bah ça, on le perd avec le néolibéralisme. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est l'État au service du marché. C'est-à-dire que c'est par exemple en France le fait qu'on a un système de retraite qui a été construit patiemment depuis 60 ans, qui est à l'équilibre. C'est l'État qui va venir le déséquilibrer. On a un système de santé qui est un des meilleurs du monde, avec un hôpital public que le monde entier nous envie, et c'est l'État qui va venir le déstabiliser. Ça, je veux dire, c'est une catastrophe sociale et écologique. Voilà.
Ben voilà, comme ça, on a un petit cours rapide, vous voyez, donc d'économie, avec une orientation, hein, soyons très clairs, et puis on va faire donc le lien un petit peu plus avec Éloi Laurent, entre la nature et donc cette fameuse économie, et ce fameux PIB.
Something's happening in the country, and the government's to blame. We got married in a gold rush, and the rush has never felt the same. Shared a moment in a cafe, shared a kiss in pouring rain. We got married in a gold rush, and the sight of gold will always bring me pain. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby? Girl, you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. Hanging gardens turned to desert,
all that loving turned to hate.
We got married in a gold rush, and those wedding bells were ringing out our fate. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud.
Boy, who's your baby?
Girl, if you don't know by now, there's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. Somewhere else we're running out of time. Everything was ours, now it's just an empty mind.
Animals don't understand the words on the danger sign. For them it's just some shade from the morning shine.
I thought you might learn the language,
I thought you might learn to sing.
We were born before the gold rush, so why can't I remember anything? I won't
time to disavow the gold rush and the bitterness that's flourished in its wake. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud.
Please don't say it loud.
I just wanna go out tonight and make my baby proud.
Avec Thierry Dupin, on s'est dit qu'il vous manquait un petit vampire. Bah oui, donc bah ça y est, vos vœux sont exaucés. Vampire Weekend.
CO2, mon amour.
Senator Robert Kennedy.
Le sénateur Robert Kennedy a dit un jour que le PIB mesure tout, sauf ce qui est réellement important pour le bien-être et la société des humains.
Denis Chessou, sur France Inter.
Et en fait, avec Éloi Laurent, donc, il ne s'agit pas, vous le dites, d'entrer dans ce piège politique qui est d'opposer la croissance et la décroissance.
Non, je pense en fait la décroissance fait partie du système de la croissance parce qu'elle décrit un monde qui est finalement l'opposé de la croissance. Donc c'est l'anti-croissance ou l'anti-PIB. Il faut se libérer de la croissance comme système. On ne va pas inventer un monde décroissant ou post-croissance, on va inventer un monde du bien-être. Il faut viser directement les finalités qui nous intéressent. Le bien-être, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le bonheur, le temps libre, la confiance, les institutions, la démocratie et bien sûr tout ce qui a trait à la biosphère. Donc ça, ça s'appelle le bien-être. On parlait d'Aristote tout à l'heure, c'est le bien-être. Aristote nous dit pas il faut la croissance ou la décroissance pour parvenir au bien-être. Il dit ce qui importe, c'est le bonheur. Et donc il s'interroge sur qu'est-ce qu'une vie réussie. De la même manière aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les finalités. Ce ne sont pas les instruments. On a passé trop de temps à penser que les instruments allaient nous permettre d'atteindre les finalités. Visons directement les finalités. Faisons un budget en France qui vise la santé des enfants. Faisons un budget en France qui vise la qualité des liens sociaux. Vous interrogez les gens à travers le monde, vous leur demandez quelle est la source principale de votre bien-être. Ils vous répondent majoritairement la santé. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on a des politiques qui sont là pour améliorer la santé? Au contraire, est-ce qu'on a des politiques qui la détruisent? Première question. Deuxième question, où est-ce qu'on a des politiques dans une ville comme Paris qui sont là pour améliorer la santé des enfants ou qui sont là pour la détruire? Deuxième question, vous posez aux gens la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux? Et les gens vous répondent sans surprise, les autres gens, les autres humains. Ouais. Ce qui fait qu'on est heureux, ce sont les liens sociaux.
Il y a une très jolie phrase d'Albert Jacquard que j'aime beaucoup citer, c'est « tuer les liens que tu tisses ».
Exactement, c'est cette idée-là. Des liens qui libèrent. Bon, et donc, l'idée fondamentale, c'est bah, faisons des politiques pour favoriser les liens sociaux. Est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Non. On a un double isolement. Isolement par le travail, isolement au travail. Le monde du travail aujourd'hui coupe les gens de leur réseau de sociabilité. Concrètement, les rendent malheureux. Et quand ils vont effectivement au travail, ils sont seuls sur leur lieu de travail. Donc voilà, luttons contre ça. Est-ce que la transition numérique aujourd'hui favorise les liens sociaux ou est-ce qu'on n'est pas en train d'assister simultanément à l'hyperconnexion numérique et à la déconnexion sociale? Est-ce qu'on peut pas s'interroger là-dessus?
Mais alors justement, Éloi Laurent, ce qui est tout à fait aussi intéressant, maintenant, regardons comment sortir de ça. On peut dire qu'on a eu des signes alors qui vont être complètement différents dans ce que je vais dire. Mais par exemple, on a mis une douzaine d'années à bâtir une France nucléaire, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. On est dans les années 70, de toute façon, le peuple avait absolument pas son mot à dire, c'était comme ça. Mais ça veut dire qu'il y avait une volonté politique et qu'en 12 ans, on a construit un certain nombre de réacteurs. Vous rappelez que, justement, à propos du numérique, en 10 ans, on a bâti. Donc on pourrait, en fait, bâtir en 10 ans aussi une transition écologique qui ne soit pas d'ailleurs que énergétique.
Écoutez, moi je vais vous dire ce qui me réveille la nuit. On est en 2020.
À part vos enfants qui,
oui,
qui
alors,
sont
bon, petits. C'est, effectivement, mais moins hein, désormais. Ouais. Mais on est en 2020. Je crois qu'on a 10 ans pour changer le monde. C'est à la fois beaucoup, et en particulier beaucoup, au regard des changements qui viennent juste d'intervenir depuis 10 ans. D'accord. Et en même temps, c'est très peu. Parce que concrètement, je pense que si on n'a pas changé le monde radicalement dans les 10 prochaines années, à partir de 2050, on rentre dans une phase de ce qu'on pourrait appeler, de façon un peu dramatique, l'autodestruction du bien-être humain. C'est-à-dire la manière dont le bien-être humain, croyant trouver le progrès, va en fait saper ses propres fondations en détruisant la biosphère. Donc 10 ans, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que les premiers smartphones émergent grosso modo en 2007. Bon. En 10 ans, ils vont tout changer. Ils vont changer les relations de travail, ils vont changer les relations sentimentales, les relations affectives, la politique. Songez à ce qu'est la politique aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant les réseaux sociaux. Donc quand j'entends que la transition écologique, c'est trop difficile à faire, que ça va être trop difficile de changer les attitudes et les comportements, c'est absolument faux. Ouais. Absolument faux, et la transition numérique est là pour nous le prouver. La difficulté, c'est que la transition numérique elle-même aujourd'hui est un obstacle à la transition écologique et un obstacle croissant. Donc il y a beaucoup de choses à défaire avant de se mettre réellement à la transition écologique. Bon, par exemple, la 5G est une folie, et le sens de l'histoire, c'est pas de faire la 5G, le sens de l'histoire, c'est de ne pas la faire. Voilà. Donc ça, c'est difficile à comprendre, mais en même temps, je pense que c'est de plus en plus clair. Je pense qu'on est dans un monde qui, malheureusement, ne nous laisse pas finalement beaucoup de chance de ne pas le comprendre.
Alors expliquez-nous quand même, moi je reviens sur la 5G, parce que comment expliquer que le numérique peut être un obstacle, alors qu'on a l'impression que c'est un outil de liberté ?
Écoutez, les entreprises de la tech, qu'est-ce que c'est comme business model ? C'est un business model de l'espionnage personnalisé, de la suspicion généralisée à l'égard des utilisateurs.
C'est cool.
La 5G, c'est quoi ? C'est l'Internet des objets. L'Internet des objets n'a aucune espèce d'utilité humaine. Ça a une utilité en termes de profit. Le fait d'avoir des objets connectés, d'avoir un réfrigérateur qui vous dit que vous n'avez plus de gruyère râpée et qui va lui-même appeler la supérette pour commander le gruyère râpée, que de toute façon vous ne voulez plus car il n'a aucun goût, et qui va le faire à votre place sans que vous le sachiez, et qui va pouvoir tranquillement vous espionner pour rapporter auprès du fabricant de gruyère le fait que vous avez consommé le gruyère à telle date et pas à telle autre, etc. Qu'est-ce que c'est d'autre que l'espionnage généralisé ? Donc, où est
Mais on va vous dire, il y a des progrès aussi médicaux, peut-être incroyables, grâce à la 5G. Enfin,
oui, il y a des progrès, une fois de plus, de captation de données personnelles, de monétarisation de ces données personnelles, etc. Une fois de plus, on a un hôpital public en France qui, jusqu'à ce que le gouvernement décide de le mettre à sac, fonctionnait parfaitement bien. Et donc, si vous voulez, la question, bien sûr que ça sert l'imagerie médicale, etc. Mais si vous voulez, la réalité, c'est que les entreprises de la tech font très peu d'innovations technologiques. Les innovations qu'elles font sont des innovations fiscales, essentiellement. Et des innovations sociales, dans le pire sens du terme. En termes de statut dégradé des gens qui travaillent pour les plateformes numériques. Donc voilà. D'un côté, vous avez ça, une utilité qui est, à mon avis, aujourd'hui, de l'ordre de la contre-productivité, en termes de liberté civile, et de l'autre, un coût écologique. Alors lui, si on peut discuter le fait que ce soit contre-productif du point de vue des libertés, du point de vue écologique, on a des études de plus en plus précises et de plus en plus nombreuses sur le coût en termes de consommation d'énergie, en termes de déchets. Songez à ce que font la triplette Amazon, Uber, Lime à une ville comme Paris, en termes de production de déchets, d'utilitaires qui vous collent des pollutions locales dans les systèmes respiratoires, d'entraves à la mobilité sur les trottoirs, etc. Donc si vous voulez, les villes elles-mêmes se rendent compte qu'elles sont littéralement asphyxiées par ces entreprises. Donc les villes, c'est la bonne échelle pour comprendre à quel point ça peut être nuisible sur le plan écologique.
Éloi Laurent, je reviens aussi quand même un petit peu sur la nature, parce que c'est quand même aussi le cœur de ce sujet, mais de l'émission, mais en même temps tout est lié, hein, que ce soit le climat, la justice sociale, la nature, etc. Quid de la nature ? Comment elle intervient dans le processus économique aujourd'hui ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle peut opposer alors que le vivant, on le voit très bien, est une variable d'ajustement, que les animaux sont au service des humains. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant qui est en train d'émerger de ce côté-là ?
Je crois qu'elle intervient de deux manières. La première manière, c'est qu'elle est entièrement recouverte par une couche de système artificiel, c'est-à-dire que on peut dire que le système économique vise à masquer entièrement la dépendance à l'égard des écosystèmes et à donner l'illusion d'un système hors sol. Donc, d'un côté, elle est totalement invisible, et de l'autre, elle l'est de plus en plus. C'est-à-dire qu'à mesure que le système économique se raconte à lui-même le mensonge selon lequel il n'a pas besoin des écosystèmes pour exister, ce qui est absolument faux.
Une vie hors sol, ça n'existe pas. Hein.
Voilà. On voit, en fait, la nature qui rattrape tous les systèmes économiques. Mmh. Et on voit l'Australie qui brûle. L'Australie, c'est la périphérie de notre monde, la périphérie la plus riche, parmi les pays les plus admirés du point de vue du taux de croissance, et un pays qui est en train de devenir inhabitable. Et quand le pays est inhabitable, eh bien, il n'y a plus d'économie.
Alors, qu'est-ce qui fera basculer nos sociétés vers la fin de ce « nos limites » et du tout conso ? Est-ce que ça va être justement les ressources ? Est-ce que ce sera le prix de l'inaction, les problèmes de santé, les actions citoyennes ? Est-ce que ce sera nos jeunes ? Donnez d'ailleurs aussi donc un prix véritable au carbone, parce que vous avez fait aussi la préface de cet ouvrage qui s'appelle « Le petit manuel de justice climatique à l'usage des citoyens », toujours au lien qui libère, de James Boyce, qui est une pointure économique aux États-Unis. Donc, ça peut être quoi ?
Tout le monde cherche ça. Je dirais qu'il n'y a pas de question plus importante que celle-là aujourd'hui en 2020 et que tout le monde devrait se la poser. Alors on peut dire, par exemple, Jean-Pierre Dupuis, pensée très forte, c'est la pédagogie de la catastrophe.
Catastrophisme éclairé.
Mais la pédagogie de la catastrophe,
absolument.
C'est-à-dire que l'Australie, voire des Australiens qu'on considère comme nos semblables économiques, réfugiés sur des canaux face à des tornades qui font sur eux à 180 km/h et qui dévastent tout, on se dit effectivement, il faut pas en arriver là. Donc ça, c'est la pédagogie de la catastrophe et l'idée, bah au fond, voilà, la terreur écologique va être un puissant moteur de l'action. Vous pouvez dire, c'est la science qui va nous sauver. C'est ce que dit Greta Thunberg. Moi, j'ai énormément d'admiration pour Greta Thunberg. Elle se trompe, à mon avis, du tout au tout quand elle dit qu'il faut s'unir derrière la science. unite behind science, ce qu'elle dit. Personne s'est jamais uni derrière la science pour faire quoi que ce soit dans l'histoire de l'humanité. On a, à mon avis, toute la science dont on a besoin et on l'a depuis longtemps. Il y a un article qui vient de sortir récemment et qui montre à quel point les modèles climatiques élaborés depuis les années 70 ont été justes dans leurs prévisions. Je veux dire, quelqu'un comme Hansen, c'est quelqu'un qui avait raison il y a 30 ans. Et simplement, la question, c'est qu'on a choisi effectivement de ne pas l'écouter. Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est comment changer. Le fait de savoir, ça ne suffit pas pour changer. Et donc, la troisième piste que je propose, moi, et ça a tout à voir avec la question du petit manuel de justice climatique de James Boyce, c'est que la clé pour moi, c'est la justice sociale. C'est d'articuler transition écologique et justice sociale, de comprendre que le début du XXIe siècle, c'est un monde où on a des crises jumelles, la crise des inégalités et les crises écologiques. Elles sont profondément articulées et qu'il faut essayer de concevoir une analyse sociale écologique de ces deux crises en même temps et des politiques sociales écologiques et même un état social écologique qui permettent de traiter les deux questions en même temps. Et évidemment, l'illustration de ça absolument frappante, c'est les gilets jaunes. C'est le fait que la taxation du carbone sans compensation sociale, compte tenu de l'espace urbain, bah, ça fait des victimes.
Écoutez, ça fait une jolie conclusion. J'ai quand même cité deux phrases de votre part. La justification fondamentale du prix du carbone, ce n'est pas que l'efficacité, mais c'est la justice. Et aussi, l'économie n'a de sens au XXIe siècle si elle est encadrée par la physique et l'éthique.
Oui, c'est-à-dire que je pense profondément que l'économie doit être bornée, en fait, par deux domaines véritablement scientifiques, en fait, qu'elle ne maîtrise pas, qui sont d'un côté la biophysique, donc à la fois la physique, la chimie, la biologie, en amont. Et c'est comme ça qu'on peut élaborer un prix du carbone s'il est véritablement ancré dans la science du climat et en aval avec l'éthique et la philosophie, c'est-à-dire la question de la justice. Et alors, oui, les économistes auront une utilité.
Sortir de la croissance, mode d'emploi, les liens qui libèrent, et puis le petit manuel de justice climatique à l'usage des citoyens. Merci à vous, Edouard Laurent. À
merci
bientôt.
Beaucoup.
CO2, mon amour.
Vous savez ce qui nous distingue des gens comme vous, Monsieur Foucault? Les cupides. Ceux qui imaginent que 100 millions d'euros peuvent leur changer la vie.
Denis Chessou.
Les gens comme moi savent que 100 millions, ça ne change rien. Ça permet seulement d'en gagner 200.
Sur France Inter.
Et ben voilà. Les derniers mots de l'environnement à Jacques Bonafé.
Ah, oh, je suis content de ma bagnole. Mais peut-on appeler ça de l'autosatisfaction, Guéluc?
Merci à Juliette Delperroux qui était aujourd'hui à la technique. L'émission était préparée avec Camille Blanès et Jérôme Boulet qui la réalisait. Anne Gouzon a nourri les sites. La semaine prochaine, je vous retrouverai cette fois-ci en reportage dans le Bas-Rhin, dans une commune qui s'appelle Salles. Il y a du sel derrière, vous verrez, c'est très intéressant. Le Twitter Denis Chessou, simplement, je vous souhaite un excellent dimanche.